Chapitre 1. Chaque année, 3 semaines après Noël, Preston et Constance Whittier partaient en vacances loin de New York. Quand leurs 6 enfants étaient encore petits, ils les confiaient à Frida, la gouvernante allemande, épaulée par l'une des nombreuses nourrices de passage. Après cet intermède en amoureux, ils rentraient toujours revigorés et pleins d'énergie. Ils allaient souvent à Aspen, où ils passaient autrefois les vacances d'hiver, à skier en famille, ou à Vail, dans le Colorado. Maintenant que leurs enfants étaient grands, ils préféraient l'Europe pour leur escapade annuelle. Bons skieurs tous les deux, ils se rendaient le plus souvent en France, à Courchevel, dans les Trois-Vallées, à Val-d'Isère ou à Megève. Parfois c'était en Suisse, à Zermatt ou à Saint-Moritz. Ces vacances avaient pour eux une saveur particulière. Et ils terminaient généralement leur voyage par un week-end à Paris ou à Londres avant de retourner à New York. Leurs enfants les taquinaient au sujet de ce qu'ils appelaient leur lune d'hiver. Par le passé, Preston et Constance avaient coutume de passer l'été à Shelter Island, dans une grande maison familiale où tout le monde se retrouvait. Mais ils avaient fini par vendre cette propriété quand les enfants avaient cessé de les accompagner. Hélas, elle était devenue une charge plus qu'une source de plaisir. Depuis quelque temps, ils réduisaient leur train de vie, s'épargnant les dépenses inutiles et se limitant à des projets moins ambitieux. Puisque les enfants ne venaient jamais à la même période, ils n'avaient pas besoin d'une maison énorme. Ils louaient donc dans le Maine, les Hamptons ou à Cape Cod, quelque chose d'assez grand pour accueillir ceux qui passaient quelques jours avec eux. Ainsi, ils n'avaient plus à subir le casse-tête que représentait l'entretien d'une résidence secondaire. Preston et Constance tenaient à leur lune d'hiver, comme ils l'appelaient eux aussi maintenant. C'était une tradition importante, une perspective dont ils se réjouissaient tout au long de l'année. Après 43 ans de mariage, c'était toujours un peu leur lune de miel. À 65 ans, Constance se sentait d'ailleurs encore jeune. Elle profitait de la vie et n'avait jamais vu le temps passer, si bien qu'elle avait du mal à croire que ses enfants étaient déjà des adultes. Même leur bébé, Annabelle, une surprise tardive, venait tout juste d'avoir 21 ans. L'aîné, Lyle, avait 42 ans et était père d'un garçon et d'une fille, Tommy, 10 ans, et Devon, 7 ans. Sa femme, Amanda, était un sujet de discussion houleux, car ses relations avec la famille de Lyle étaient catastrophiques. Ils s'étaient détestés dès le départ. Lyle l'avait rencontré alors qu'il profitait de sa vie de célibataire et de sa carrière florissante de promoteur et agent immobilier. Ce qui n'était qu'une histoire sans lendemain avait pris une toute autre tournure le jour où Amanda était tombée enceinte. Lyle l'avait alors épousée par loyauté. Une fois mariée, Amanda avait préféré se faire entretenir et avait cessé de travailler. Elle avait un grand besoin de reconnaissance sociale et aux yeux de Constance, c'était une femme cupide. Mais à l'époque, Preston prenait sa défense, car elle était enjouée, gaie et sexy, et savait comment user de son charme. Pourtant, très vite, Constance avait compris que Lyle n'était pas heureux. Ce dernier ne se plaignait pourtant jamais. Tout ce qu'il souhaitait, c'était faire plaisir à Amanda et construire un foyer stable et chaleureux. Constance estimait que sa belle-fille avait un goût prononcé pour les choses hors de prix et qu'elle exigeait beaucoup de son mari sans lui donner grand-chose en retour. Mais elle adorait ses petits-enfants et aimait passer du temps avec eux. Les deux Benjamins, Annabelle, 21 ans, et Benji, 28 ans, vivait toujours sous le toit familial. Constance était heureuse de les avoir encore auprès d'elle. Ses autres enfants, qui avaient des carrières bien entamées, avaient quitté la maison depuis des années. Gloria était la sœur cadette de Lyle. À 39 ans, elle avait su se faire une place dans le milieu de la finance et occupait un poste important à Wall Street. Elle ne perdait d'ailleurs jamais une occasion pour prodiguer généreusement ses conseils à ses frères et sœurs, même quand ils ne lui demandaient rien. Propriétaire d'un appartement dans l'Upper West Side, elle était célibataire et rendait souvent visite à ses parents, mais était très contente de vivre seule. Les jumeaux, Caroline et Charlie, avaient quant à eux acheté un loft ensemble dans le quartier de Soho. À 33 ans, ils travaillaient dans la mode et se consacraient au développement de leur marque de vêtements féminins. Ils avaient transformé leur loft, un ancien entrepôt, en un espace vivant qu'ils adoraient. Inséparables quand ils étaient enfants et adolescents, c'est assez naturellement qu'ils avaient décidé de vivre et de travailler l'un avec l'autre. Cela leur convenait parfaitement à tous les deux. Lyle était le seul des six enfants à être marié. Gloria, Charlie et Caroline étaient bien trop occupés par leur carrière et il n'y avait aucun signe de mariage à l'horizon, ni même aucune histoire d'amour sérieuse. Benji avait besoin de l'aide de ses parents. Annabelle, elle, était encore trop jeune pour penser au mariage. Mais elle avait hâte d'être indépendante, et elle pressait ses parents pour qu'ils lui achètent un appartement. Échapper à leur surveillance était son seul objectif. Elle avait récemment abandonné ses études à la fac pour le plus grand désarroi de Constance et Preston et était revenue vivre sous leur toit. Elle avait donc du mal à les convaincre qu'il lui fallait plus de liberté, et la perspective d'avoir un logement à elle s'éloignait. En revanche, son frère Benji était enchanté de l'avoir à la maison près de lui. Constance et Preston avaient fait connaissance à New York au cours d'un rite social désuet auquel leur famille tenait beaucoup, le bal des débutantes. À 18 ans, Constance avait fait son entrée dans le monde et était présentée à la bonne société. Preston, qui avait 10 ans de plus qu'elle, ne lui avait alors pas prêté attention. À ses yeux, elle faisait simplement partie de la vingtaine de jeunes filles en jolies robes blanches escortées par des cavaliers de leur âge. Ils s'étaient retrouvés quelques années plus tard quand Constance était entrée dans une maison d'édition dans laquelle Preston était déjà un éditeur expérimenté et respecté. Il l'avait remarquée immédiatement et avait été frappé par sa beauté et son intelligence. Ils s'étaient mariés l'été suivant. Constance avait renoncé à sa carrière afin de pouvoir se consacrer à son foyer, tandis que Preston s'était vu confier la direction de la maison d'édition. Preston avait aujourd'hui 75 ans, et depuis son départ à la retraite, 10 ans auparavant, il profitait de chaque seconde en compagnie de Constance. Ils étaient heureux de pouvoir enfin passer plus de temps ensemble. Jamais ils ne s'étaient lassés l'un de l'autre. Et ils avaient gardé toute leur vie de nombreux centres d'intérêt communs. Ils étaient toujours aussi amoureux et renouaient même avec leur passion des débuts pendant leur lune d'hiver en Europe. Tous deux venaient d'un milieu aisé. Preston était issu d'une famille de la grande bourgeoisie ayant fait fortune dans le commerce de l'acier et du cuivre au tournant du XXe siècle. Le krach boursier de 1929 avaient porté un coup à leurs affaires, mais contrairement à de nombreuses entreprises qui avaient fait faillite, ils s'en étaient sortis sans trop de dégâts en diminuant leur train de vie. Constance, quant à elle, descendait d'une vieille lignée aristocratique et avait également hérité d'un certain capital. Sa fortune n'était pas mirobolante, et tout comme celle de Preston, elle avait vite fondu au fil des années. Mais de toute façon, le couple n'avait jamais eu le goût du luxe. Sans rouler sur l'or, ils avaient pu offrir à leurs enfants la meilleure éducation possible et un train de vie des plus confortables. Ces derniers hériteraient à leur tour d'un joli patrimoine. Et même si la valeur de la maison et les investissements de Preston seraient soumis à l'impôt sur les successions, et le tout divisé par 6, cela permettrait à leurs enfants de s'acheter un bien immobilier, de financer un projet professionnel et même de payer les études de leurs propres enfants. Cependant, cet héritage ne ferait pas d'eux des gens riches. Le bien le plus précieux qu'il leur léguerait était la maison qu'ils avaient acquise avant la naissance de Lyle. Il s'agissait d'un ancien hôtel particulier dont la vente aux enchères était à l'époque passée inaperçue. Personne n'avait été intéressé par une propriété aussi grande. et ils avaient donc pu l'obtenir pour une bouchée de pain.